Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la Radio République Indonésia, de la voix de l'Indonésie. Voici le journal d'aujourd'hui. L'IPI lance l'indice de la santé des récifs coralliens d'Indonésie. L'Indonésie construit officiellement un hôpital à Rakhine au Myanmar. Angklung est capable de devenir la culture à la valeur de l'économie créative. Hidayat Nur Wahid, l'idéologie et le pouvoir de l'État. Le vice-président. Médicaments fabriqués à partir de plasma sanguin seront remplis. Les pays du Pacifique étudient la gouvernance de l'écotourisme à Bali. Chers auditeurs et auditrices, voici le journal complet. L'Institut indonésien des sciences, l'IPI, a lancé l'indice de la santé des récifs coralliens d'Indonésie. L'indice a été élaboré à partir des données de la surveillance des récifs coralliens dans les eaux indonésiennes de 2014 à 2016. Au début du programme de réhabilitation et de gestion des récifs coralliens et de l'initiative du Triangle du Corail, cela a été déclaré par le chef du Centre de recherche océanographique de l'Institut indonésien des sciences, Dilham Shah, dans le lancement de l'indice de la santé des récifs coralliens de l'Indonésie au bâtiment PDO, l'IPI Ancol, Jakarta, lundi. D'après les données du PDO de l'IPI, les données ont été recueillies dans 32 villes de l'ouest à l'est de l'Indonésie, comme l'emplacement des observations, que chaque emplacement est constitué de plusieurs stations d'observation. Donc globalement, il y a 366 stations. L'indice de santé coralien à partir du numéro 1 est comme le point mauvais au numéro 10, comme le point sain au très bon. Alors qu'en général, la valeur de l'indice des récifs coralliens en Indonésie est sur le nombre 5 et 6 ou 3. Mais il y a 5 stations dans la valeur de l'indice de 10 ou très bonne et 14 stations dans la valeur de l'indice de 1 ou mauvaise. Selon le chef par intérim du LIPI, Bambang Subianto, l'indice de la santé des récifs coralliens d'Indonésie L'indice de la santé des récifs coralliens d'Indonésie est très utile pour la gestion des récifs coralliens et des autres écosystèmes concernés. Selon lui, cet indice peut déterminer si l'écosystème des récifs coralliens de l'Indonésie est bon ou non. Seulement quelques pays du monde qui ont déjà un indice de santé des récifs coralliens d'Indonésie, y compris de quelques pays dans le monde qui ont l'indice. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré que la construction d'un hôpital indonésien à Myombwe, dans l'état de Rakhine au Myanmar, a officiellement commencé après la pose de la première pierre dimanche, le 19 novembre, suivi par l'ambassadeur d'Indonésie du Myanmar Ito Soumardi, le ministre des Affaires de Rakhine, des représentants du ministère de la Santé du Myanmar, les dirigeants de la communauté locale et les communautés bouddhistes et musulmanes. Comme cité par Antara, cet hôpital est une forme de contribution des citoyens tunisiens aux citoyens de Rakhine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Armanata Nasir, a déclaré « La construction de cet hôpital est le résultat de la coopération entre le gouvernement indonésien et le peuple indonésien, y compris la Croix-Rouge indonésienne, diverses ONG et le secteur privé. » Il a ajouté que la construction de l'hôpital devrait être achevée au mi-de l'année prochaine. Après avoir fixé Anklung sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO le 19 novembre 2010, Anklung devient une culture qui est capable de devenir la culture à la valeur de l'économie créative. C'est ce qu'a affirmé le vice-gouverneur de Java West, Deddy Mizwar, tout en donnant un discours lors de la culturelle indonésienne en ville de Bandung, l'ouest de Java, dimanche, le 19 novembre. Selon Deddy Mizwar, cet anniversaire d'Anklung devrait stimuler l'esprit de préservation et de développement d'Anklung comme l'une des cultures sundanaises par la communauté. Cette détermination sera révoquée si l'activité de l'Anklung ne grandit pas et ne se développe pas dans la société. Par conséquent, à travers la commémoration de la journée d'Anklung, il espère la fierté et le sentiment d'appartenance à l'Anklung peuvent continuer à croître dans la jeune génération. Alors Anklung va continuer à se développer naturellement, de sorte qu'il devient l'une des principales cultures. Hidayat Nur Wahid, le vice-président de l'Assemblée du peuple de la République d'Indonésie, a affirmé que la coopération de l'idéologie pourrait renforcer l'existence d'une nation ou d'un État, parce qu'elle peut surmonter l'ingérence extérieure de la nation. Dans un communiqué de presse reçu par Antara à Jakarta lundi, Hidayat Nur Wahid, qui a diffusé les quatre piliers de l'Assemblée du peuple de la République d'Indonésie, dans le centre de Jakarta, a dit qu'un exemple peut être vu dans la séparation de l'Union soviétique en 1990. Yougoslavie a également souffert ce que l'Union soviétique a souffert. Hidayat Nur Wahid ajouté, il montre également l'absence d'idéologie. Il croit que la compréhension de la société indonésienne est différente. Avec l'habitude de vivre dans une région multiethnique, avec la compréhension que l'idéologie de Pancasila est une idéologie unificatrice, alors l'Indonésie restera en paix habitable par diverses tribus et aussi diverses régions. Pour cette raison, Hidayat invite tous les niveaux de la société à mettre en œuvre les valeurs de Pancasila, la Constitution 1945, et le slogan Bhinneka Tunggal Ika ou l'unité dans diversité dans son ensemble proportionnellement. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré le besoin de médicaments nationaux avec la matière première du plasma sanguin sera rempli si l'industrie concernant à cela est bientôt construite. Le souhait, l'industrie des stocks de sang et le fractionnement du sang peuvent être accélérés. Cela a été déclaré par le vice-président Yusuf Kalla au siège de la Croix-Rouge indonésienne à Jakarta lundi. Le vice-président, qui est également le président de la Croix-Rouge indonésienne, a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre la Croix-Rouge indonésienne et l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments sur l'amélioration de la qualité du service des soins par l'unité transfusionnelle de la Croix-Rouge. Ceci est en conformité avec le règlement numéro 72 de 2015 du ministre de la Santé sur le fractionnement du plasma, que l'industrie du fractionnement du plasma devrait utiliser des matières premières du plasma de qualité dérivée par l'unité transfusionnelle de sang avec la certification du CPOB. Des représentants des pays du Pacifique sont invités à visiter Bali pour apprendre et partager des expériences sur la gouvernance de l'écotourisme dans le programme de formation organisé par le ministère indonésien des Affaires étrangères et l'École supérieure de tourisme de Bali. La formation internationale officiellement ouverte ses portes en Nusa Dua, Bandung, je voulais dire Badung Régence, Bali, lundi le 20 novembre. Le personnel expert en international tenu du 20 au 26 novembre est l'un des efforts du gouvernement indonésien pour intensifier les relations amicales avec les pays de la région du Pacifique. Au total, 14 représentants des parties gouvernementales et privées des pays du Pacifique comme les Tonga, Samoa, les îles Salomon, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Palau et 4 participants de l'Indonésie au cours de la semaine prochaine apprendront et partageront leurs expériences sur la gouvernance de l'écotourisme, ainsi que la visite d'un certain nombre de destinations touristiques de Bali, comme Kuta, le village Pangalipuran, Ubud, le village Pemutaran, Jatilui et Tanah Lot. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui.
Serviteurs, pour la rubrique suivante, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Une autre essence des élections générales ». Rien ne diffère de chaque activité de l'élection générale ou du plus grand événement en Indonésie. Même cela a aussi une impression décontractée, parce que d'habitude, beaucoup de gens émergent. Certains d'entre eux sont finalement catégorisés comme des groupes opposés, à savoir les non-votants ou appelés golput. Certaines personnes considèrent que leur non-participation aux élections générales peut être une forme de désespoir ou de déception parce qu'il n'y a pas de jargon de leur meilleur choix. Peut-être de la planification à l'activité principale et post-événement, cette activité ne change pas beaucoup. Auparavant, le vote se faisait à travers le stand et chaque électeur recevait un papier photo des personnes qui devenaient les candidats en épinglant avec un outil comme des clous. En outre, le système de vote a été fait en cochant ou appelé chontreng avec des articles de papeterie tels que des stylos ou des crayons. Alors, quelle est la prochaine innovation à offrir par les organisateurs des élections? Tout ont le sens de la participation du public pour participer à la détermination de la continuité de la nationalité et de l'État dans ce pays. Mais si le système est étudié et examiné, il existe en réalité une autre essence qui est plus précieuse et plus élevée que l'élection du chef de l'État. Il doit y avoir l'existence d'un lien spirituel, le sens de la responsabilité envers la durabilité de ce pays qui unit cette nation dans le couloir de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Le couloir n'est pas seulement un jargon, mais étant uni, l'Indonésie est absolue et ne peut pas être négociée pour cette nation. Par conséquent, la mise en œuvre du plus grand événement qui coûte beaucoup ne devrait pas être endommagée par certaines personnes ou groupes juste pour le plaisir temporaire. Même, ils veulent gagner beaucoup d'argent pour ce faire, certains groupes ou autres partis sont plus riches. Le commissaire des élections générales de la République d'Indonésie, Wirian Aziz, estime que l'élection est un lieu pour renforcer l'unité au sein de l'État unitaire de la République d'Indonésie en acceptant les résultats des élections finales sans creuser le fossé. Les élections générales ne sont pas simplement des événements cérémoniels, mais ce sont des programmes de développement national qui impliquent tous les éléments de la société. En conséquence, le résultat de l'élection entraînera des dirigeants clés dont la plupart des Indonésiens et la nation ont besoin. Même le président Joko Widodo estime qu'il veut que l'atmosphère des élections générales reste propice pendant les élections. Les élections des chefs régionaux, législatives et les élections présidentielles auront lieu au cours des deux prochaines années. Secrétaire, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 21 novembre 1974, le bombardement aux deux grands pubs de Birmingham en Angleterre, 6 personnes ont été arrêtées. Ils sont connus comme les Six de Birmingham. Ils étaient accusés d'être membres de l'armée républicaine irlandaise qui ont fait le bombardement aux deux pubs Mulberry en Angleterre le 21 novembre 1974. La bombe a explosé 2 fois et ils sont le plus sanglant attentat de ce moment-là. 10 personnes ont été tuées et 11 à la taverne et 162 ont été blessés. Au tribunal, le 15 août 1975, ils ont été condamnés à la prison à vie. Le 21 novembre est la journée mondiale de la télévision. L'UNESCO célèbre le 21 novembre comme la journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1996 pour encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration de l'échange culturel. L'objectif de fixer pour le 21 novembre en tant que journée mondiale de la télévision est de renouveler l'engagement du gouvernement et des autres organisations de développer des médias électroniques. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec la Journée mondiale de la pêche. Lors d'une réunion à New Delhi lundi le 21 novembre 1997, un forum mondial de pêcheurs et les travailleurs de la pêche, ou WFF, ont été formés. Les participants ont convenu de faire de cette date comme la Journée mondiale de la pêche. Depuis lors, les pêcheurs de petite et moyenne échelle se réunissent chaque année dans divers endroits du monde pour commémorer la Journée mondiale de la pêche et souligner le besoin urgent de protéger les ressources halieutiques et d'y avoir accès. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici la mise au point intitulée Les petites et moyennes entreprises de l'Indonésie ont le potentiel pour devenir un leader du marché dans les exportations de bois et de rotan. Les petites et moyennes entreprises ou PME de l'Indonésie ont le potentiel pour devenir un leader du marché dans les exportations de bois et de rotan. Mais le problème est de savoir comment les auteurs de PME sont capables d'attirer des acheteurs mondiaux. Cela signifie que la pénétration du marché mondial et domestique doit être faite de manière intégrée et durable, à la fois offline ou online. C'est ce qu'a déclaré le directeur général des petites et moyennes entreprises du ministère de l'Industrie, Mme Gati Wibawaningsih, après le lancement de Omah Mebel, ou la maison de meubles, et l'artisanat de coopératives et de l'industrie de meubles et de l'artisanat Solo Raya au Kimkas à Solo lundi 20 novembre 2017. Selon Mme Gati Wibawaningsih, pour augmenter la promotion en ligne, le ministère de l'Industrie a lancé le e-smart IKM ou PME qui peut être accessible aux consommateurs à travers le marché ou le magasin en ligne. Comme cité par Compass.com, Gati a déclaré en plus de la promotion, ce programme peut augmenter la capacité des PME indonésiens dans le domaine du commerce électronique. Jusqu'à septembre de cette année, déjà plus de 1600 auteurs de PME de différentes régions ont participé à l'atelier e-smart IKM. L'amélioration du marketing en ligne et le marketing offline sont encore fortes. Selon Gati, l'un des avantages du marketing offline qui ne peut pas être remplacé par le système en ligne et l'acheteur peut voir directement le type et la qualité de produit. Les acheteurs peuvent rencontrer directement les auteurs de PME afin que le processus de négociation soit plus facile pour les acheteurs et PME par rapport au marketing en ligne. Un autre Solo est le centre de meubles et d'artisanat. Sur la base des données du ministère de l'Industrie, il y a plus de 150 acteurs de PME de meubles qui ont les licences. Les produits de PME qui existent déjà ne produisent pas seulement pour le marché intérieur, mais aussi pour les marchés d'exportation. D'autre part, selon Mme Gati, le ministère de l'Industrie cible la valeur à l'exportation du meuble et de l'artisanat indonésien pour l'année 2018 augmente à 2 milliards de dollars américains contre l'objectif de cette année de 1,04 milliards de dollars américains. L'un des efforts visant à soutenir l'augmentation des exportations de meubles et d'objectifs artisanaux consiste à organiser des promotions et à fournir une assistance directe sous la forme de machines. En outre, les artisans de meubles doivent être en mesure de créer de nouvelles innovations afin que les résultats puissent rivaliser avec les produits d'autres pays. Jusqu'à présent, le plus grand marché d'exportation de meubles et d'objets artisanaux en Indonésie et les États-Unis. Le président de l'Association des industries de meubles et de l'artisanat indonésien, ou HICMI, M. Adi Dharma Santoso, a déclaré qu'il était en train de chercher de nouveaux marchés pour accroître les exportations de meubles et d'artisanat en Afrique et en Amérique du Sud. L'exportation de meubles et d'artisanat de Solo Raya aux États-Unis est près de 50% et le reste en Europe, en Asie et en Australie. C'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien « Tout de beauté en Indonésie ».
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant du café Rarobang. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Si vous visitez Ambon, en province Moluques, vous profiterez de belles plages. N'allez pas simplement aux plages, essayez de profiter d'une variété de culinaires uniques. Il y a divers fruits de mer frits ou cuits au four, même traités avec des herbes qui utilisent diverses herbes. En plus des fruits de mer, les forêts de Moluques, toujours entretenues, assure également l'approvisionnement en aliments à base de plantes, tels que le sagou, les tubercules et les noix. La nourriture à base de sagou, les tubercules et les noix sont caractéristiques de la cuisine ambonaise. En plus de la cuisine, essayez aussi des boissons typiques d'Ambon. Pour les amateurs de café, vous pouvez essayer le café Rarobang. Vu en un coup d'œil, ce type de café ressemble à un café au lait saupoudré de noix. Mais si elle a été agitée, pas aussi épais que le lait de café. En outre, il y a aussi des restes de gingembre et de café à la base de la coupe. En fait, le café Rarobang est une variante du café Robusta formulé avec des graines de gingembre blanc, de miel et de noix, de sorte que le goût et la texture sont différents. Le café Rarobang a un arôme distinctif, un mélange d'arômes de café et de gingembre. Après avoir été siroté, le café au gingembre a un goût sucré et chaud. Cependant, les graines croquantes de noix ajoutent un goût riche du café Rarobang typique d'Ambon. Le goût sucré produit est dérivé de miel liquide, bien sûr différent du goût sucré du sucre. Presque tous les aliments et boissons Ambon utilisent les graines de noix. Pour profiter du café Rarobang, vous pouvez visiter la rangée de café au Jalan Said Perintah à Ambon. Vous pouvez profiter du café dans l'un des cafés, l'un d'entre eux dans le café Sibu Sibu, qui vend du café Rarobang 19 000 rupiah. Ce café est également une visite incontournable car il dit soi-disant pas à Moluques si vous n'êtes pas arrêté par Sibu Sibu. Le Sibu Sibu à Moluques signifie la brise et en malais ambonais il appelait Hel Buang Lanchik qui signifie la maison où il est éteint. Ce café est un endroit idéal pour se détendre. Sibu Sibu est ouvert du matin jusqu'à 21h temps d'Indonésie Est. Le menu principal est du café Rarobang. Au café Sibu Sibu, vous pourrez déguster une tasse de café chaud accompagné de musique moluquoise apportée par des chanteurs de Molouk de tous âges. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique « Apprendre l'indonésien » qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie de la Radio République Indonésie et l'Institution du Développement et la Gestion Langagière du Ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est « D'immigration ». Ou en français, à la poste d'immigration. Restez avec nous sur voi.co.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois par mot et vous le répéterez après. D'immigrasi. D'immigrasi. En français, à la poste d'immigration. Selamat siang. Selamat siang. En français, bonjour. Passeport. Passeport. En français, le passeport. Berapa lama? Berapa lama? En français, pour combien de temps? Anda. Anda. En français, vous. Tinggal. Tinggal. En français, rester. Di Indonesia. Di Indonesia. En français, en Indonésie. Dua minggu. Dua minggu. En français, deux semaines. Di mana? Di mana? En français, où? Menginap. Menginap. En français, séjourner. Di rumah. Di rumah. En français, à la maison. Sahabat. Sahabat. En français, ami. Jalan. Jalan. En français, la rue. Tujuh belas. Tujuh belas. En français, 17. Jakarta Barat. Jakarta Barat. En français, Jakarta West. Barang. Barang. En français, les biens. Déclarasikan. Déclarasikan. En français, déclarer. Selamat datang. Selamat datang. En français, bienvenue. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation entre l'agent d'immigration et Jackie. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase. Et vous allez donc la suivre après moi. Selamat siang. Selamat siang. En français. Bonjour. Tolong paspornya. Tolong paspornya. En français, votre passeport, s'il vous plaît. Ini pak. Ini pak. En français, voilà, monsieur. Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia? Berapa lama Anda akan tinggal di Indonesia? En français, vous allez rester en Indonésie pour combien de temps? Hanya dua minggu. Hanya dua minggu. En français, juste pour deux semaines. Di mana Anda akan menginap? Di mana Anda akan menginap? En français, et où séjournez-vous? Di rumah sahabat saya. Di rumah sahabat saya. En français, à la maison d'un ami. Di Jalan Susilo, nomor 17, Jakarta Barat. Di Jalan Susilo, nomor 17, Jakarta Barat. En français, à 17 rue Susilo, Jakarta West. Apakah ada barang yang perlu dideklarasikan? Apakah ada barang yang perlu dideklarasikan? En français, vous possédez des biens à déclarer? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. En français, non, monsieur. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. Ini paspor Anda. Ini paspor Anda. En français, voilà votre passeport. Selamat datang di Indonesia. Selamat datang di Indonesia. En français, bienvenue en Indonésie. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Voilà, chers auditeurs et auditrices, cette édition du programme Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Sampai jumpa.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, merci à vous d'écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici la couleur musicale, nous avons sélectionné des chansons de Dangdut chantées par Evie Tamala, étant populaire avec sa chanson intitulée « Médecin d'amour ». Elle a commencé sa carrière dans les années 1980 et a devenu le membre d'un groupe de musique malaise, Sinar Remaja. Ce groupe a fait un concert à Tasikmalaya et Bandung. Un jour, Mukhtar B, un compositeur et producteur, a entendu la voix mélodieuse d'Evie et elle a eu l'occasion de chanter le Dangdut. Serviteur, on écoute la première chanson intitulée « Lune dans la nuit ». Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, merci à vous d'écouter La Voix d'Indonésie. C'était la chanson de Dangdut intitulée Lune dans la nuit, chantée par Evie Tamala. Elle est née le 23 juin 1969 à Tasikmalaya, dans la province de Java West. Son premier album de ses vents est en 1988. Elle a sorti le deuxième album avec une chanson intitulée Tang Ting Tong Der, créée par Muhtar B. Cet album ne peut pas encore populariser Evie Tamala. Un an plus tard, elle a publié le troisième album intitulé Docteur Cinta ou Médecin d'amour. Cet album est très populaire. Elle est plus connue comme chanteuse de dangdut après avoir sorti cet album. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant notre belle chanson de Evie Tamala intitulée Bougie Blanche. Bonne écoute.
Thank you.
Merci, mes chères auditrices et auditeurs dans le monde entier, d'écouter notre antenne La Voix d'Indonésie. Vous êtes en train d'écouter des chansons de Dangdut chantées par Evita Mala. Le succès était suivi par le succès des albums suivants, entre autres Journée de l'amour, qui a été publié en 1990, Oh mon Dieu, sorti en 1991, et Tout me manque. Le succès rend Evie une productrice de musique pour des nouveaux chanteurs. Elle a reçu de divers prix grâce à sa réussite dans l'industrie de musique de Dangdut. Maintenant, on écoute des chansons intitulées La maison en bambou et Fille pauvre, chantée par Evita Mala. Bonne écoute et à bientôt!
Thank you.
quitter notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.